Radio Kapi.
Le journal, c'est avec vous grâce. Amzati Masanzi.
À l'occasion de la journée des droits des femmes, un rassemblement de prières au camp Kokolo à Kinshasa pour soutenir les soldats congolais au front organisé hier par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité ainsi que l'association des épouses des militaires. Ce rassemblement a également exprimé une solidarité forte envers les femmes de l'Est de la RDC, premières victimes des atrocités. Dans ce journal, nous parlons de la rencontre vendredi entre les députés européens et le président Félix Tshisekedi, des sanctions contre le Rwanda et la suspension de l'aide au développement. Tels sont les sujets abordés par les députés européens du groupe des patriotes du Rassemblement national avec le président congolais à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Lutte contre la malnutrition dans la province de la Tshopo. Un plan ambitieux élaboré avec l'appui des partenaires et de la société civile à l'issue d'un atelier organisé par la division provinciale du plan avec le soutien de l'UNICEF. Le chef de la division provinciale du plan dans la Tshopo, le docteur Norbert Mosunga, nous en parle dans ce journal. Il est notre invité. Bonjour. Le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité et l'association des épouses des militaires ont tenu ce samedi 8 mars au camp Kokolo, ici à Kinshasa, un rassemblement de prières en faveur des soldats congolais au front. Cette prière a été organisée aussi pour une solidarité et pensée pieuse pour toutes les femmes de l'Est de la RDC à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À travers cette prière, la ministre Nathalie Aziza Mounana a rappelé que beaucoup de femmes du Nord et Sud Kivu voient encore leurs droits bafoués par les ennemis du pays, raison pour laquelle il ne faut pas les oublier. Elle encourage cependant toutes les femmes congolaises à l'unité et à la résilience pour faire face aux défis existentiels auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. La ministre Nathalie Aziza Mounana s'exprime dans cet extrait que nous propose Billy Ivan Lutumba.
C'est une journée qui doit nous interpeller. J'ai mis aussi l'accent parce que c'est la première fois dans l'histoire que nous avons une femme première ministre. Donc je devais honorer cette femme que le président de la République a honorée sous le choix de l'excellence Judith Suminwa Tuluka. Nous savons que dans le Grand Kivu, nous perdons nos jeunes filles, nous perdons nos mamans. Aujourd'hui, c'est la femme qui a le rapport avec l'armée, la maman qui a un enfant militaire. Une jeune fille d'aujourd'hui, femme de demain, engagée dans l'armée. Une veuve militaire, une maman qui a son fils dans l'armée. Si son fils est au front, cette femme-là, je crois qu'elle a eu la consolation aujourd'hui. Cette jeune fille, son père au front, elle a eu la consolation aujourd'hui. Cette épouse, son mari au front, elle a eu la consolation aujourd'hui. Cette veuve qui a perdu son mari sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur, aujourd'hui, elle est consolée. C'est bien de dire on est avec la FARDC, on est avec les Wazalendo, on est avec tout le monde. Mais je pense que c'est aujourd'hui qu'il fallait montrer au monde entier que le 8 mars, la femme congolaise est touchée directement, indirectement par rapport à cette guerre.
Toujours en marge de la célébration du mois de mars dédiée aux droits des femmes, les femmes de la ville de Beni au Nord Kivu ont apporté ce samedi une assistance en vivres et non vivres aux soldats des FARDC engagés sur les différentes lignes de front. Selon Ruth Sabouni, chef du bureau genre, famille et enfants, cette initiative des femmes vise à manifester leur solidarité envers l'armée et à soutenir l'effort de guerre. Cette assistance ne s'est pas limitée aux soldats engagés sur les lignes de front, mais également a été étendue aux blessés de guerre internés à l'hôpital général de référence de Beni. On écoute Madame Ruth Sabouni.
Pour cette année, nous, on s'est dit pas question de fête, hein, et que nous devons nous liguer pour soutenir l'effort de guerre qui se commet à des différentes lignes d'effort. C'est pourquoi au niveau de Beni, nous avons fait une campagne de collecte de dons qui nous a permis d'acheter quelque chose comme de l'eau à remettre aux autorités militaires pour remonter la morale de nos frères FARDC qui sont sur la ligne d'effort. Et par rapport à ça, nous nous sommes dit que nous n'allons pas nous limiter seulement aux militaires qui sont sur la ligne de front, mais il y a aussi les blessés de guerre qui sont longés sur les lits au niveau de l'hôpital général. L'objectif principal, c'était de montrer à notre FARDC que les mamans vraiment sont derrière eux et ils sont en train de les soutenir pour que la paix nous revienne dans notre ville de Beni.
Les femmes de l'Ituri vivent dans une psychose due aux atrocités commises par les groupes armés et réclament le retour effectif de la paix dans leur communauté. C'est le message principal des structures féminines qui ont participé hier à la cérémonie du 8 mars. Elles appellent toutes les femmes à s'unir pour rechercher la paix dans cette province. Un reportage signé Martial Kiza Biamungu.
C'est dans cette ambiance de prière et de méditation qu'une dizaine de structures et des organisations féminines ont célébré la journée de 8 mars dans la ville de Bounia, dans la salle de polyvalente de l'église catholique de la paroisse de Nyakasanza. C'était devant les autorités politico-administratives et les chefs du bureau de la MONUSCO. Dans leurs interventions, les femmes ont témoigné des violations graves qu'elles subissent dans les zones où les groupes armés commettent les exactions. Maman Marie Kabazaire Bagouma, point focal du mouvement Rien sans les femmes en Ituri, plaide pour les retours effectifs de la paix.
Le traumatisme est causé par les événements de guerre qui surgissent de tous les côtés. Nous voulons que la paix puisse être restaurée au sein de notre communauté de l'Ituri.
Jean-Marc Mazio du bureau JAR en Ituri pense qu'il y a une nécessité pour les décideurs de soutenir les organisations féminines afin de mettre la femme au centre de toute décision.
Nous demandons aussi aux décideurs de se mobiliser, mettre les moyens pour soutenir le travail des organisations féminines. Donc la nécessité de mettre la femme au centre.
Une collecte de fonds a été faite au profit des FRDC et des Ouazalendo qui combattent le M23 soutenu par le Rwanda à l'est du pays. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, la génération Freddy Mwali a célébré la journée du 8 mars avec des femmes âgées qui passent leur journée à mendier. Chaque femme a reçu un pagne et une enveloppe dont le montant n'a pas été divulgué à la presse. Selon le directeur général de la génération Freddy Mwali, ces gestes visent à redonner le sourire à cette catégorie de femmes. Florence Kizalunga, reportage.
C'est dans la salle Motel 117 que se sont retrouvées ces femmes sélectionnées, dont quelques-unes malvoyantes. Elles affirment avoir été contactées par surprise par le bureau de la génération Freddy Mwali. Une première selon elles.
Nous les mamans du troisième âge, nous remercions et sommes joyeuses d'avoir été pensées par cette génération aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'avoir reçu un pagne comme moi. Je ne pars plus au champ, je ne vends plus les sombés. Trouver un pagne comme ça et l'argent, je remercie beaucoup.
Le directeur général de cette structure appelle à l'aide pour ces femmes qui font face à plusieurs difficultés. Imani Bin Imani.
Notre génération a pensé aux mamans qui quémandent toute la journée en cours de route. Ce sont les mamans qui sont délaissées, qui ne sont pas vraiment intéressées par les gens. Voilà pourquoi nous demandons aux gens de bonne volonté de penser aussi à ces mamans-là, parce qu'elles doivent aussi vivre comme les autres. Parmi elles, il y a ceux qui ne voient pas bien, il y a ceux qui n'attendent pas bien.
La génération Freddy Mwali a également honoré les factures de femmes qui ont accouché ce samedi 8 mars dans certaines structures sanitaires de la place. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, des députés européens du groupe des patriotes du Rassemblement National ont rencontré le président Félix Tshisekedi vendredi à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa. Ils ont discuté de progrès diplomatiques concernant la résolution de la crise dans l'Est de la RDC. Les discussions ont porté sur les sanctions contre le Rwanda ainsi que sur la suspension du partenariat et de l'aide au développement de certains pays européens avec Kigali. La délégation a été dirigée par Thierry Mariani, député et membre de la Commission Commerce international de l'Union européenne. Des explications avec Billy Ivan Lutumba.
À en croire la presse de la présidence congolaise, le député Thierry Mariani est revenu sur le protocole d'accord signé entre l'UE et le Rwanda concernant l'approvisionnement en minerais stratégiques. D'après lui, cet accord n'a aucune traçabilité garantie. Il poursuit en déclarant, je le cite, « Chacun sait que les ressources géologiques du Rwanda ne sont pas les mêmes que celles de la RDC et chacun se doute que ce sont des minerais volés. En tant que parlementaires européens, nous ne voulons pas être les receleurs ni les complices d'un massacre et d'une invasion. On a présenté au président une solution technique qui permettrait d'assurer la traçabilité des minerais et qui ferait en sorte qu'on saurait clairement qui est le vrai propriétaire. » Fin de citation. Pour ce qui est des sanctions prises ou à prendre contre le Rwanda, le député Mariani se félicite du fait que l'Allemagne, les USA, l'Angleterre et les Nations Unies ont montré la voie. Ainsi donc, fait-il savoir, l'Union européenne ne peut pas rester la dernière entité à ne pas prendre des sanctions. Si on veut arrêter l'agression dont la RDC est victime, il faut qu'il y ait des actes qui suivent les résolutions.
Vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé Louis Segond Karawa vice-gouverneur de la province du Nord Kivu le vendredi dernier. Ce poste est crucial dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la guerre et la crise sécuritaire. Mais qui est cet homme choisi par le chef de l'État? Tentative de réponse avec Ronelin Tibonera.
Louis Segond Karawa est né en 1965 en République démocratique du Congo. Après des études en relations internationales à l'UPN à Kinshasa, il intègre les forces armées aïroises dans les années 1990. Il suit ensuite une formation militaire au centre des Kibomango. En 1994, lors de l'opération turquoise, il se retrouve au sud Kivu. Il passe des fantassés à parachutistes durant la guerre de l'Afdel. Resté longtemps à l'écart de projecteurs pendant une décennie, c'est en 2013 qu'il est élevé au poste de commissaire provincial adjoint chargé de la police d'appui et de la gestion au sud Kivu. Deux ans plus tard, il est nommé commissaire provincial de la police dans cette même province. Après cinq années passées à la tête de la police, Louis Segond Karawa est muté dans la province du Haut-Katanga. Par la suite, les chefs de l'État décident de les transférer de la province du Haut-Katanga à celle du Maïndombe, où il est nommé chef de la police. C'est depuis cette province où il n'a passé qu'un an et demi que Karawa est nommé vice-gouverneur du Nord Kivu.
Merci à vous, Ronelyne Tibonera. L'accès aux services bancaires reste problématique à Goma au Nord Kivu malgré le versement continu des salaires des agents et fonctionnaires par les employeurs via les banques. Les bénéficiaires rencontrent toujours des difficultés pour accéder à la liquidité. Pour pallier à cette situation, certaines banques et coopératives de crédit ont mis en place des mécanismes visant à faciliter cet accès pour la population. Une fois de plus, Ronelyne Tibonera.
Certains agents déclarent avoir accès à leur liquidité à travers des mécanismes de transactions par téléphonie mobile développés par certaines banques COPEC, institutions des microfinances opérant à Goma. Pour les COPEC et IMF par exemple, c'est la digitalisation de produits et services expérimentés depuis plus d'une année maintenant. Ceci pour permettre à leurs membres d'accéder à leurs épargnes. Toujours pour contourner cette situation de manque d'argent liquide, les COPEC ont intensifié depuis février dernier la communication tout en mettant en place la version web chargeable sur les sites. C'est pour aider le membre à effectuer des mouvements sur leur compte à partir de leur téléphone. Cela implique les dépôts, les retraits, les virements et les remboursements des crédits. Avec la digitalisation où que les membres se trouvent, ils peuvent accéder à leur compte partout. Le souci majeur qui demeure est l'accès au cash. Le responsable de COPEC annonce que pendant cette période, le recouvrement forcé ont été momentanément suspendus. Seuls les membres qui ont la capacité de rembourser continuent via la digitalisation. Pour ce qui est des pénalités et du retard dans le remboursement, les modalités seront étudiées en commun accord entre le COPEC, IMF et les débiteurs pour ne pas les appauvrir, disent ses responsables.
Cette autre nouvelle sur la fréquence de la paix, la cellule technique des coordinations et des planifications minières, CTCPM, une structure du ministère des Mines, a une nouvelle équipe dirigeante. Le professeur Dieudonné Louis Tambwe Kasonga Mwimba a été nommé coordonnateur avec Patricia Undele Tuluka comme coordonnatrice adjointe en charge des questions financières et Peter Bilolo Kanyama comme coordonnateur adjoint en charge des questions techniques. Ils ont pris leurs fonctions le vendredi dernier lors d'une cérémonie de remise et reprise au siège de la CTCPM en présence du secrétaire général aux mines. La nouvelle équipe dirigeante a promis de se mettre rapidement au travail. Écoutons ce sujet, le professeur Dieudonné Louis Tambwe Kasonga Mwimba au micro d'Alain Irung.
Je voudrais avant tout exprimer mes hommages les plus déférents envers la personne du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision exceptionnelle du secteur minier, particulièrement à l'heure où nous sommes confrontés à une guerre d'agression qui vise essentiellement le pillage de nos ressources minérales. Je voudrais dire ici que j'adhère pleinement à sa vision pour un secteur minier qui soit porteur du développement de notre pays et avec des chaînes de valeur qui puissent améliorer le quotidien du peuple congolais. Je continuerai à œuvrer avec le même enthousiasme, la même loyauté, la même intégrité et la même rigueur qui m'ont caractérisé durant ces dernières 15 années où j'ai assumé la responsabilité de coordonnateur adjoint de la CTCPM en charge des questions techniques.
Actualité internationale.
Malgré l'appel au calme, ce vendredi 7 mars du président Salva Kiir, la société civile du Soudan du Sud s'est dit très inquiète face à la résurgence de la violence dans plusieurs régions du pays, notamment dans l'état du Haut-Nil et face aux arrestations de plusieurs personnalités politiques.
L'invité.
Un plan de lutte contre la malnutrition dans la province de la Tchopour a été élaboré par les acteurs étatiques en collaboration avec les partenaires techniques et financiers du gouvernement ainsi que la société civile. Ce plan a été finalisé à l'issue d'un atelier d'alignement sur le plan stratégique multisectoriel de la nutrition organisé par la division provinciale du plan avec le soutien de l'UNICEF. Quelles sont les activités prévues pour sa mise en œuvre et quel est le montant global prévu? Le chef de la division provinciale du plan dans la Tchopour, le docteur Norbert Mosunga, s'entretient avec Jacques Mukonkole.
Docteur Norbert Mosunga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Docteur, l'atelier vient de s'achever. Il a été question d'élaborer un plan aligné au modèle de celui conçu par le PRONANUT, le Programme National de Nutrition à Kinshasa. Peut-on dire que ce plan est désormais disponible à Kisangani?
Merci pour la question. Je vous affirmerai que ce plan est disponible aujourd'hui au niveau de la province, mais cela nécessite également l'approbation ou encore la validation politique. Nous allons le soumettre à l'autorité politique ainsi que au gouvernement, à l'Assemblée provinciale, pour qu'ils puissent valider afin que ça soit opposable à tous.
Avec l'organisation réussie de ce séminaire, docteur, on peut dire que vous avez atteint votre objectif.
Oui, la finalité, c'est avoir un outil à mettre à la disposition de l'autorité politique au niveau de la province, qui pourra servir de guide, ou si on peut dire de boussole, pour la lutte contre la malnutrition au niveau de la province, en vue d'arriver à réduire tant soit peu cette situation dramatique qui prévaut dans notre province.
Que prévoit ce plan?
Ce plan prévoit d'abord beaucoup d'interventions et à travers ces interventions, nous avons élaboré le cadre commun de résultats, c'est-à-dire à quoi est-ce que nous voulons arriver à travers la mise en œuvre de ce plan. Il y avait aussi un plan d'action opérationnel qui est établi sur base de priorisation des activités qui puissent être mises en œuvre. Et également, le budget a été dégagé pour une échéance de 5 ans. Et c'est un budget qui est réparti annuellement durant ces 5 ans, de 2026 à 2030.
Et quelles sont les activités qui sont prévues et quelles sont vos priorités?
Oui, les activités prévues sont les activités qui concernent tous les secteurs qui ont un lien avec la nutrition.
Est-ce qu'on peut savoir de quel secteur d'activité s'agit-il exactement?
Si je peux citer, il y a l'agriculture, il y a l'éducation, il y a le développement rural et les autres secteurs qui contribuent dans la promotion de la nutrition au niveau de la province. Et les activités sont en rapport avec chaque secteur selon ses interventions au niveau du terrain.
Comment ce plan est mis en œuvre?
Oui, le plan sera mis en œuvre tel qu'il s'est établi, c'est de façon annuelle. Et ça pourra être aussi être évalué à mi-parcours, ainsi qu'à la fin pour voir qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été fait par rapport à ce qui est prévu.
Docteur Mosunga, cela nécessite des moyens financiers. D'où viendra le financement pour la réalisation des activités que vous envisagez dans ce plan?
Tout à fait, tout à fait. Un plan ne peut pas être réalisé sans moyens financiers. Et les moyens financiers proviendront d'abord de la mobilisation des recettes domestiques, c'est-à-dire les recettes du gouvernement provincial, et ça nécessiterait également l'apport du gouvernement central. Et en l'occurrence, les apports qui nous sont toujours donnés par les partenaires techniques et financiers, et c'est vraiment indispensable surtout en ce qui concerne l'appui institutionnel des différents secteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ces programmes.
Docteur Mosunga, quelle est la hauteur de l'enveloppe globale prévue pour la mise en œuvre de ce plan?
La hauteur de cette enveloppe, je vous dirais, la sommation, si on fait la sommation de tout ce qui est établi, on pourra arriver à un montant qui peut avoisiner 3 milliards de dollars pour les 5 ans.
3 milliards de dollars, n'est-ce pas énorme par le temps qui court, docteur? Est-ce que ce montant n'est-il pas surévalué?
C'est insignifiant d'ailleurs par rapport à ce qui est établi au niveau national.
Docteur Norbert Mosunga, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Il est 16h20 à Kisangani, dans la province de la Tchopour. Ainsi s'achève ce journal, mis en onde par Pierre Diassinois. La coordination et la supervision d'Alei Rung, grâce à Mzati, était à la présentation. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci.